Alors bonjour messieurs, nous sommes dans la quotidienne et nous recevons aujourd'hui non pas un invité mais deux invités. Nous avons Tanner McCain, en fait, directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires que vous connaissez bien maintenant. Et nous avons avec lui Nicolas Mesly, que vous connaissez aussi, émérite journaliste qui écrit entre autres dans le bulletin des agriculteurs. Alors vous deux, on est content de vous avoir parce qu'en fait c'est un peu, bon, c'est une fin d'année, on est en train de regarder ce qui s'est passé en 2023, c'est quoi les... Qu'est-ce qui peut se passer en 2024 première chose, sur le thème de l'eau, il y a eu un rapport que le CAPI a fourni en fait, récemment aux médias. On a appris entre autres, bon, qu'il y avait 22% de l'eau douce qui était au Canada. J'ai envie de vous dire, avec les recherches qui ont été faites sur la gestion de l'eau, est-ce que vous sentez qu'on est assez conscient de la responsabilité que le Canada peut avoir ? Peut-être préciser aussi, pour embarquer un peu aussi sur le sujet de la COP28 en lien, je voyais en fait Yann Turmin vient de sortir une chronique chez nous qui va être publiée dans quelques jours, où il a fait un peu le bilan, il est allé voir ce qui s'était fait comme constat suite à la COP28. Puis là, on voit quand même que la COP28, pas nécessairement sur l'eau, mais il y a un peu d'espoir parce qu'il y a une des clauses qui dit qu'il faut réexaminer, orienter les politiques soutien liées à l'agriculture et au système alimentaire afin de promouvoir des activités qui augmentent les revenus mais qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et qui renforcent la résilience. On dirait qu'il y a... D'ailleurs, le questionnement après que Yann Turmin se posait, c'est de dire, est-ce que nos systèmes de soutien à l'agriculture devront donc changer ? C'est comme si la COP28 nous amenait aussi à une réflexion sur justement, on ne peut plus faire l'agriculture comme avant. Est-ce que c'est vrai dans le cadre des programmes et est-ce que c'est vrai dans le cadre de la gestion de notre eau, d'ailleurs ?
Oui, certainement. En ce qui concerne l'eau, autour de la monde, il y a des grands défis pour le secteur agricole. Aux États-Unis, partout dans l'Europe, dans les grandes régions productrices, ils sont en train de vivre des expériences avec des grands manques de l'eau. Comme Nicolas a dit, on prend pour acquis le fait qu'on a de l'eau au Canada, on le voit un peu partout, mais la réalité, c'est qu'avec les changements climatiques, avec une utilisation qui augmente, on est en train de voir que dans le futur, ça se peut que l'eau ne va pas être si disponible. Et on croit qu'on devrait mieux agir aujourd'hui pour avertir les crises qu'on est en train de voir aux États-Unis, en Europe. Et on croit qu'il y a un équilibre qui a besoin d'être trouvé. Oui, c'est vrai qu'on devrait conserver, mais on devrait aussi trouver des façons de mieux tirer du profit de l'eau qu'on a, d'être plus conscient, d'être plus intelligent avec comment on les gère, puis comment est-ce qu'on l'utilise pour la production alimentaire.
Ben justement, dans la déclaration de la COP28, où on parle effectivement donc de réduire les émissions à gaz à effet de serre, de renforcer la résilience, on dit aussi d'avoir une utilisation rationnelle de l'eau et de la santé humaine, animale et des écosystèmes. Je ne sais pas si on appliquera, parce que Nicolas va nous dire, oui, mais ça, c'est comme les accords de Paris sur le climat qu'on avait signé, mais qu'on n'a jamais appliqué. Mais il reste que, là, dans la COP28, on voit que 134 pays, dont le Canada et États-Unis, qui étaient aussi présents, ont signé cet engagement. Donc, est-ce que ça donne un peu d'espoir, quand même, qu'on va regarder les choses autrement?
Pour revenir à votre question, moi, je résume ça de cette façon suivante-là. C'est que l'eau, tant la qualité et la quantité, vont redéfinir le commerce international agricole, mais aussi la production domestique. Et vous parlez de la COP28, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le gouvernement américain vient juste, le 10 décembre dernier, là, désigner ce qu'il appelle le Food, Agriculture and Water Day comme prioritaire. Donc, le gouvernement américain s'engage dans toute une série d'actions, on pourrait dire, pour, comment dirais-je, pour, en anglais, ils disent ça, ils disent « address », pour s'occuper, si on veut, pour se pencher sur tout ce qui est sécurité de l'eau, tant pour la production que pour tout ce qui est l'eau sanitaire. Donc, voyez que ça commence à être dans le radar, si vous voulez, mais on n'a pas le choix, là.
La réflexion, on l'a fait au Canada, puisqu'il y a ce rapport qui vient de sortir, la réflexion se fait, mais est-ce qu'on peut penser que le côté pragmatique des choses va venir des voisins du Sud ? Parce qu'ils ont plus... La réflexion se fait au Canada sur la gestion de l'eau, mais est-ce qu'on peut penser que sur le plan pragmatique, les intentions vont venir des voisins du Sud parce qu'ils ont plus besoin d'eau que nous, on peut en avoir besoin ?
C'est un peu pour ça le plan d'action. Je vais laisser Tyler répondre.
Oui.
Justement, le plan
d'action. Oui, c'est ça. On croit que si on regarde qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de gérer les ressources comme on devrait. Il y a des choses qui sont en train de changer un peu avec une agence canadienne de l'eau qui est disposée de voir, d'être créée l'année prochaine. Mais on croit que les dynamiques dans le secteur agricole et dans l'agroalimentaire sont assez uniques que ça prend vraiment un plan d'action de la secteur, un plan d'action qui, avec des ministres agricoles qui sont les propriétaires de la plan d'action, mais qui engagent les partenaires dans le secteur privé, comme les producteurs, mais comme les transformateurs, comme la société civile, mais aussi les autres ministères comme l'environnement, les ressources naturelles. Ça devrait être un travail d'équipe, mais on croit que c'est vraiment les ministres d'agriculture qui devraient démontrer le leadership.
Alors, pour faire un lien entre une crise actuelle en agriculture au Québec et la crise porcine et la gestion de l'eau, on sait que pour le porc, il y a besoin de beaucoup de maïs et qu'on sait que le maïs utilise beaucoup d'eau. Est-ce que actuellement, puis je me réfère un peu au rapport que l'Institut Jean Garon a publié, je pense de mémoire, le mois d'août dernier, qui fait un wrap-up un peu de la situation dans le porc et qui nous alarme un peu sur le fait que on ne fait peut-être pas les bons soutiens aux bonnes productions si on veut une agriculture saine pour les prochaines années. Est-ce que c'est le constat que le CAPI fait également?
Mais je crois que la réalité qu'on voit un peu partout aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une nouvelle ère de volatilité et de risque. Certainement, on le voit dans le secteur porcine au Québec, mais on le voit un peu partout. Canada, le commerce international est en train de passer par une période de turbulence. Les changements climatiques sont en train d'impacter les producteurs. C'est vraiment, je crois que la volatilité et le risque, c'est les mots de la journée. On devrait poser la question, est-ce que nos programmes, est-ce que nos politiques sont mieux bien placées pour répondre? C'est clair que dans tout au Québec puis au Canada, les programmes de gestion du risque n'ont pas vraiment changé depuis des décennies et on devrait reviser nos approches pour s'assurer qu'on est en train de vraiment offrir un appui financier qui aide les producteurs à gérer les risques, mais aussi qui s'assure que des bonnes décisions sont en train d'être prises. Si les producteurs sont dans une région ou dans une industrie qui est en train de vivre des difficultés où les ajustements devraient être pris, on devrait s'assurer que nos programmes ne découragent pas cette transition-là.
Pour ajouter à ce que dit Tyler, si on prend le pari porcin du Québec, on exporte presque autant de viande de porc que d'électricité certaines années. Mm-hmm. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il est très difficile d'exporter le cinquième quartier, c'est-à-dire les couples les moins nobles, dans un pays comme la Chine, à cause de nombreuses choses. Ensuite, vous avez une tempête parfaite là, au Québec pour la production porcine. Fermeture d'abattoirs, difficulté de trouver de la main-d'œuvre, c'est vrai aussi en Alberta. Le marché chinois, je vous l'ai mentionné. Donc, et on est obligé de couper en plus d'un million de porcs, de production de porcs au Québec. Donc, vous parliez du maïs, vous parliez du soya, on peut parler du soya. Quand on parle de taux de suffisance alimentaire, mettons que le porc est à 170%, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on réfléchit à l'eau? Parce que la production de maïs soya sans bande riveraine, sans rotation, culture de couverture pour protéger son sol, tout ça s'en va dans l'eau. Et c'est la qualité de l'eau qui en est affectée. Donc, si on est capable, pour les producteurs, d'encourager de meilleures pratiques culturelles, on protège nos sols et on protège notre eau. J'en reviens au fait que, par exemple, si, au lieu de produire du maïs, on pourrait, on peut produire du maïs et du soya, mais en rotation, on introduit du blé panifiable, qu'on importe à 80 % de l'Ouest canadien, et que le producteur soit bien rémunéré pour faire du blé qui servirait à faire du pain pour les Québécois, ben là, on change un peu la donne.
D'ailleurs, tu t'es penché, Nicolas, récemment sur le blé panifiable. Je pense qu'il y a même un article qui est sorti dans la France Agricole où tu faisais la situation. En fait, et en fait, ce que tu nous amènes comme solution, c'est de dire faisons des rotations et entretenons nos terres, en fait, c'est ça? Par la rotation.
Oui, en protégeant nos terres agricoles, comme il le faut, vous protégez l'eau, parce qu'à ce moment-là, la terre, c'est une éponge, si elle est bien, traitée. Donc, avec de bonnes pratiques culturales, vous pouvez entreposer votre eau, vous pouvez mieux la gérer, et du coup, vous n'exportez pas votre terre dans les cours d'eau. Donc, ça prend des bandes riveraines, Et c'est là, il y a une des questions qu'il faut se poser. Il faut donner ça à M. Lamontagne, le ministre de l'Agriculture du Québec, qui a introduit le PAD, le Programme d'agriculture durable, où on commence, si vous voulez, à payer les agriculteurs pour de bonnes pratiques culturelles, les récompenser. Quand on est un agriculteur ou agricultrice et qu'on est sur le marché international et qu'on a des dettes et qu'on doit les rembourser, on va aller, si le maïs ou le soya est à 500-600 $ la tonne, dans le cas du soya, plus que 650, ben c'est ce que vous allez faire. Comment vous introduisez une troisième culture ou plus de rotation? Mais il y a des producteurs qui le font. Je pense à un producteur, justement, dans l'article que vous mentionnez et que j'avais interviewé, qui s'appelle Paul Caplette. Il y a des rendements de 6, 7 des tonnes en moyenne de blé.
Mais ça
prend un effort soutenu.
Mais c'est là où on revient à l'idée aussi que l'Institut Jean Garon a comme poussé l'été dernier en disant, écoutez, si vous voulez effectivement changer la donne et faire moins de maïs et plus de rotation de culture, il faut que les producteurs aillent tirer un bon profit de leur culture du blé panifiable, par exemple. Et donc, qu'il y ait des assurances stabilisation de revenus qui soient applicables à plusieurs productions et non pas juste au maïs soya, en fait.
Oui, certainement. Quand on pense à l'enjeu de la durabilité, on pense très souvent à l'enjeu de la durabilité environnementale, mais c'est clair que la durabilité économique est essentielle aussi si on veut que les producteurs prennent des actions comme changer leur façon de produire. C'est essentiel que ce soit rentable pour eux.
Alors, dernière question peut-être dans cette quotidienne. Bilan de l'année, le sujet, je l'amène parce que ça va être le sujet de 2024. On sait que le ministre Lamontagne a démarré une grande consultation sur le zonage agricole en juin dernier au Grand Marché de Québec. Ça va durer sur toute l'année 2024. Le troisième fascicule qu'on attendait sur la propriété des terres est sorti. Je sais que Nicolas, en plus, toi, tu as fait un livre qui a fait fureur, Terre d'asphalte, donc je sais que le sujet t'intéresse beaucoup. Le ministre Lamontagne a dit au congrès de l'UPA la semaine dernière, je ne suis pas la boîte miracle et c'est bien parfois compliqué parce que c'est vous aussi qui achetez vos propres terres. Puis là, on comprend mieux parce que le fascicule 3 est sorti et dans le fascicule 3, on voit que 83% des terres agricoles sont bien propriétés de producteurs agricoles au Québec. Donc en fait, ça veut dire que dans la problématique qu'on a au niveau du zonage, oui, les terres augmentent, mais les terres augmentent parce que les producteurs s'achètent essentiellement entre eux. Est-ce que c'est bien ça le constat?
J'ai pas lu le troisième fascicule. Écoutez, si vous dites que 83% des terres appartiennent à des agriculteurs, c'est le MAPAC, il y a une étude là-dessus.
Oui, c'est MAPAC, Statistique Canada. En fait, au Canada, c'est 64%, mais il y a le Québec et les Maritimes qui sont à 83 et 82% propriétaires des terres. Et d'ailleurs, ils sortent aussi le chiffre des fameux propriétaires hors Québec, les non-résidents, dont on entend souvent parler. D'après le rapport, le fascicule 3, ils ne représentent que 4 971 hectares sur 3 millions d'hectares. Donc, c'est bon. Les éléments qui ont été amenés par le MAPAC ces jours-ci, parce que je pense que le fascicule date d'il y a 2-3 jours, vont certainement amener une réflexion un peu différente sur le zonage.
OK, donc en gros, ce que dit cette étude-là, c'est que finalement, si le prix des terres augmente, c'est que ça se passe entre agriculteurs, ils se cannibalisent entre eux autres pour l'achat de la terre. C'est ce que vous comprenez?
Ben, c'est pas ce que dit le document, parce que le document, c'est un document factuel, hein, mais quand on lit le document, c'est un peu le sentiment, en tout cas, ma lecture, moi, c'est le sentiment qui ressort, effectivement.
Écoutez, je vais plus commenter quand j'aurai pris connaissance du document. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des terres, surtout dans les régions de la communauté métropolitaine de Montréal, celles de Québec, les terres des Sœurs de la Charité. Il y a des achats qui sont faits par des spéculateurs qui ne sont pas agriculteurs. Maintenant, est-ce que c'est une minorité? Est-ce que c'est une... Je ne peux pas vous le dire. Ça fait des années qu'on avait demandé un observatoire. Les chercheurs ont demandé un observatoire sur les transactions agricoles pour pouvoir intervenir. Par exemple, une terre qui se vend à 300 000 $ l'hectare ou à 75 000 $ l'hectare, je veux dire... Même si vous faites un laboratoire de amphétamine dessus ou de la cocaïne, ce ne sera jamais rentable. Mm-hmm. Donc, c'est des choses à voir. Ensuite, ça, c'est lié. Si vous me demandez est-ce que l'exercice, la consultation du territoire agricole est un bon exercice, je vous dirais oui, mais il manque l'éléphant dans la pièce. Et l'éléphant dans la pièce, c'est quoi? C'est la fiscalité municipale. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas une réforme sur la fiscalité municipale, les terres agricoles entourant les grands centres, si vous voulez, et même les moyens centres, vont continuer à se faire gruger. Donc, sur l'architecture et l'aménagement du territoire. Elle ne tient pas compte de ça, de la fiscalité municipale. Donc, c'est vraiment un dossier à suivre.
D'ailleurs, il y a quelqu'un dans la salle à l'UPA au congrès la semaine dernière, un des producteurs qui était présent, qui demandait, parce qu'il y avait les différents chefs de parti, qui demandait à Paul Saint-Pierre Plamondon, s'il était élu, de faire en sorte, en fait, que les propriétaires non-agriculteurs et non... qui ne loueraient pas leurs terres et qui n'utiliseraient pas leurs terres, même en zone verte, soient taxés comme des zones blanches, soient taxés comme des résidentiels. C'est une des ouvertures que les gens qui étaient présents dans la salle proposaient. Est-ce que, Tyler, le zonage agricole est un sujet qui va être suivi par le CAPI en 2024? Ou est-ce qu'il y a juste au Québec qu'on fait cette étude-là, ou vous avez entendu que ça se faisait aussi ailleurs au Canada?
Oui, c'est tous les enjeux. La terre agricole sont en train de devenir un plus grand priorité d'un océan à l'autre. On est en train de voir qu'au Québec, le processus est un peu mieux organisé de ce qu'on a vu en Ontario avec le gouvernement Ford. Mais pour nous autres, on va continuer de travailler là-dessus parce que les terres agricoles, même comme l'eau, sont un ressource qui a besoin d'être conservé. C'est un ressource énorme pour le pays. Mais on devrait être intelligent avec notre gestion de cette ressource-là.
Mais écoutez, messieurs, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui pour la quotidienne. Merci d'avoir participé à tous les deux et au plaisir de vous retrouver en 2024.